France Inter.
Aujourd'hui dans l'affaire sensible, les larmes de Paris. Le 23 juin 1940, au lendemain du triomphe de l'armée allemande et de la signature de l'armistice par la France, il est 5 heures et Paris s'éveille quand même, miraculeusement épargné par les destructions. Mieux encore, la capitale fait toujours le bonheur des touristes, parmi lesquels Adolf Hitler et ses sbires. Après la guerre éclair, l'envahisseur effectue en effet et en 2 heures chrono la visite éclair de Paris, une ville qu'il admire autant qu'il l'a, et, capitale des Français, ce peuple qu'il abhorre. C'est dans une ville déserte, abandonnée par les 2/3 de la population, que le petit groupe de curieux mené par Hitler visite la ville. C'est un moment suspendu, l'un des plus déconcertants de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Et tout le monde se questionne avec angoisse sur le sort que réserve Hitler à la capitale française. Paris brûlera-t-il ? Notre invitée aujourd'hui, Cécile Desprairies, écrivaine, spécialiste de Paris sous l'occupation. Elle a publié récemment Un voyage à travers la France occupée, 4 000 lieux familiers à redécouvrir, livre sorti en 2023 aux Presses universitaires de France. Affaires sensibles, une émission de France Inter, récit documentaire Bastien Jans, coordination Franck Cognard, chargé programme Rebecca Denante, réalisation Frédéric Milano.
Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter.
Juin 1940, Paris est groggy, accablé et bientôt outragé. À l'heure de la sieste, les Parisiens sont réveillés par des bruits qu'ils n'auraient jamais voulu entendre. Les avions allemands déchirent le ciel, une pluie de bombes s'abat sur la ville et surtout sur ses banlieues. Des centaines de morts, une école et un hôpital détruits. Des enfants et des vieillards fustigent le journal le matin, dès le lendemain. La chasse à la bombe d'Hitler sur la population parisienne est ouverte, craint-on. Le début de l'enfer, la bataille, la vraie, celle qu'on craint depuis 10 mois, la guerre et ses souffrances. Une situation qu'on a cessé de l'ordre de préparer, en éloignant une majorité d'enfants de la capitale, en créant des abris souterrains, en distribuant des masques à gaz à la population, pendant que la Wehrmacht transperçait toutes les lignes de défense alliées, provoquant la fuite de centaines de milliers de réfugiés hollandais, belges et ch'tis qui transitent par Paris. Et dans l'horreur de la guerre, la capitale de la France doit rester ce qu'elle est, splendide, fière et propre. Germaine Beaumont insiste. Sa chronique quotidienne au journal Le Matin, intitulée « Propos d'une Parisienne », contraste au milieu des calamiteux communiqués de l'armée française.
Les échos de la lutte aérienne cessaient à peine d'ébranler le ciel. La poussière et la fumée montaient encore des immeubles frappés, des devantures arrachées. Les bombes, en un mot, venaient à peine de semer les ruines. Et déjà, devant chaque porte, une commerçante, une ménagère, une concierge s'affairait, triant les décombres et de leur grand balai nettoyer le trottoir. Oh, il y a bien des spectacles de grandeur sur Terre. Le front, en ce moment, les multiplie. Mais il y a aussi de la grandeur dans les choses simples. Dans cette femme du peuple, par exemple, qui nettoie si vite son seuil souillé par les bombardements.
Mardi 11 juin, Paris est effrayé. Les nouvelles ne laissent planer aucun doute. L'Italie vient de déclarer la guerre à la France à son tour. L'armée allemande a atteint Rouen et la Seine. Rien ne semble plus pouvoir empêcher l'ennemi de marcher sur Paris. Tout est perdu. Dans les métros, sur les quais de gare, aux portes de la ville, partout, la même cohue, les mêmes bousculades. En train, en voiture, en carriole, la plupart des Parisiens cherchent à fuir la ville. Et dans ce chaos qui porte attention aux mots rassurants de Paul Reynaud, affiché la une du matin, « La France ne peut pas mourir », clame le président du Conseil, alors que son propre gouvernement vient de fuir à Tours. Abandonnée par ses élites, la capitale s'en remet à ses chômeurs, appelés à collaborer à la défense de la capitale dans Paris Soir. Fluctuat nec mergitur, Paris ne sombrera jamais, peut-on lire aussi. Plus que jamais, un vœu pieux. Jeudi 12 juin, dernière impression parisienne recueillie dans le matin.
Paris s'est éveillé sous un ciel d'apocalypse. Une épaisse brume cache le soleil. De temps en temps, le ronflement d'avions dans le ciel. Toute la nuit, le canon a tonné par intervalles. Les Parisiens matinaux n'arrêtaient pas de se demander l'origine de cette épaisse calotte de brume. S'agissait-il d'une fumée artificielle ou bien d'une brume d'été chargée de toutes les poussières soulevées par toutes les caravanes d'évacués et par tant de voitures qui n'arrêtaient pas de passer? L'exode des voitures et des réfugiés a commencé dès le matin. Mais à côté du Parisien qui s'en va, il y a aussi celui qui reste, celui que ses occupations ou ses devoirs retiennent à Paris, après avoir fait partir sa femme et ses enfants, ou celui qui ne saurait pas où aller.
Et puis c'est le silence. Les journaux français ne paraissent plus les jours suivants. Il n'y a pas de récit des événements, car d'événements, il n'y a pas eu vraiment. La bataille de Paris n'a pas eu lieu. Désertée par les trois quarts de sa population, la capitale française est déclarée ville ouverte. C'est donc dans ce genre de ville que l'armée allemande entre le 14 juin, sans affronter la moindre résistance. Quand le matin et Paris soir reparaissent une semaine plus tard, il n'y a pas eu de massacre ou de destruction. Mais Paris n'est plus tout à fait la même.
Peuple de Paris, les troupes allemandes occupent la capitale. La ville est placée sous gouvernement militaire. Les ordres des autorités militaires devront être exécutés sans condition. Évitez chaque action irréfléchie. Les troupes allemandes ont reçu l'ordre de respecter la population et ses biens, sous la condition que cette population reste calme. Parisiens, attention ! Le commandant de la place de Paris rappelle la réglementation suivant laquelle chacun doit être rentré à son domicile à 22h et ne peut plus circuler jusqu'à 5h du matin. Le préfet de police rappelle également que depuis le 14 juin, l'heure allemande a été appliquée pour Paris comme pour toutes les régions occupées. En conséquence, toutes les pendules et montres ont dû être avancées d'une heure dans la nuit du 14 au 15.
Nous sommes alors le 23 juin 1940 et les Parisiens qui restent apprennent à vivre sous l'occupation. L'armistice a été signé la veille. La presse parisienne est sous le contrôle total des Allemands. Mais ce sont bien les plumes françaises qui appellent tout le monde à l'apaisement et qui se réjouissent de la paix raisonnable signée avec l'Allemagne. Travailler, manger, dormir. La vie économique normale doit reprendre. Paris Soir offre déjà des encarts de publicité en allemand pour les commerçants intéressés. Je suis resté à Paris parce que l'arrivée des Allemands ne me causait aucune inquiétude, témoigne un restaurateur dans le journal. Et il ajoute, la partie était perdue pour la France. Quitter la capitale ne servait à rien. Mon établissement est donc resté ouvert. Il doit regretter, cela dit, de ne pouvoir proposer une bonne kartoffels salat à sa carte, tout simplement parce que la capitale manque de pommes de terre. Dans le ventre de Paris, au Halles de Châtelet, l'activité n'a jamais cessé. Mais on manque de tout. Le quartier est sûrement le seul de la ville à être un peu animé en ce dimanche matin, aux alentours de 8h. Si bien que l'énorme carcasse décapotable blindée noire montée sur 6 roues de la Mercedes 770 peine à se faufiler dans la foule. Le rugissement de son moteur fait sursauter un petit vendeur de journaux. Celui-ci tourne la tête, sidéré. Non, il ne peut pas se tromper. Ce regard fermé, ses yeux clairs et cette moustache étroite. C'est Hitler en personne, oui, là, en plein Paris. La terreur du jeune Parisien a des racines profondes. Ça fait des années que la figure menaçante du Führer s'impose dans l'imaginaire français. Et nul ne peut douter alors de sa barbarie et de la haine viscérale qu'il éprouve pour les Français. À moins que... Remontons quelques années en arrière pour bien comprendre le rapport complexe qu'entretient Hitler avec les Français.
Beaucoup considèrent comme un mystère, une énigme, les raisons qui réunissent ces centaines de milliers d'hommes et ce qu'ils ont pu supporter de détresse, de souffrance et de privation. Ils ne peuvent voir dans cette affluence que le résultat d'un ordre donné par l'État. Ils se trompent. Ce n'est pas l'État qui nous commande, c'est nous qui commandons à l'État.
L'extrait qu'on vient d'entendre est tiré du film le plus important de la production cinéma nazie, Le Triomphe de la Volonté, de Leni Riefenstahl. Sorti en 1935, cette œuvre, toute à la gloire d'Hitler et de son inquiétant charisme, pièce maîtresse de la propagande nazie, circule dans les plus prestigieux festivals de cinéma du continent. À Paris, à l'occasion de l'exposition universelle de 1937, on lui décerne même le prix du meilleur documentaire.
Les 39 États qui participent à notre exposition y participeront magnifiquement. C'est à vous, messieurs, qu'il appartient. de donner aux Français cette foi qui leur permettra de faire que la participation française soit digne. Votre concours est le seul espoir que nous ayons de voir ceux de nos compatriotes qui persistent à être neurasthéniques sortir enfin d'un état d'esprit catastrophique pour croire à l'avenir et pour croire en tout cas à l'avenir de leur pays. Et c'est pourquoi je vous demande de tout cœur de continuer à faire ce que vous n'avez cessé de faire. Je vois, messieurs, au succès de l'exposition internationale de 1937 par la presse française et je la remercie à la fin.
Deux ans à peine avant la déclaration de guerre, la culture nazie s'étale en grande pompe à Paris. À l'ombre de la tour Eiffel, Albert Speer, l'architecte du Reich, édifie un pavillon monumental sous la forme d'une immense tour néoclassique surmontée d'un grand aigle et arborée d'une croix gammée en néon qui brille dans la nuit parisienne. Comble de l'ironie, le pavillon nazi fait face à celui non moins monumental de l'URSS. Les Parisiens ne peuvent mesurer alors le carnage et les dizaines de millions de morts que supposera bientôt cette confrontation. Il faut se remettre dans le contexte de l'époque. En 1936, 37 et 38, peu de monde veut croire à l'imminence de la guerre avec l'Allemagne. La politique raciale et meurtrière des nazis est certes connue et critiquée dans les milieux intellectuels. Mais la puissance et l'énergie qui émanent du régime, et surtout la fulgurante ascension de son chef, suscitent également un certain intérêt. Ce Hitler, on suit son ascension en France depuis 1923, il n'était alors qu'un petit prophète de malheur bavarois, un chef nationaliste illuminé qu'on a vu lentement s'imposer dans le paysage politique allemand. Et depuis son accession inattendue à la chancellerie, en 1933, on ne parle plus que de lui. Il est l'homme le plus photographié au monde. Son livre écrit lors de son séjour en prison, le fameux Mein Kampf, a été traduit et publié en français en 1934, au grand dam du Führer lui-même, qui a essayé d'empêcher cette diffusion. C'est qu'il aurait bien dissimulé plus longtemps en français ce qu'il contenait, c'est-à-dire une haine viscérale de l'Hexagone. « La France est et reste l'ennemi mortel de l'Allemagne », écrit-il. Pire, pour Hitler, notre pays constitue la plus grande menace pour la race blanche. On peut prévoir que dans trois siècles, les faibles traces de sang aryen qui subsistent encore en France auront disparu, explique-t-il encore. Il y aura, s'étendant du Rhin au Congo, un grand état peuplé de mulâtres, d'êtres appartenant à cette race inférieure et indéfinissable qui se forme à la suite de métissages continus. Le grand remplacement avant l'heure, un continuum d'extrême droite. Malgré tout, en janvier 1936, Hitler donne une interview à un Paris Soir sous le titre « Hitler vous parle ». La complaisance de la journaliste française en dit long.
Hitler s'avance vers moi, la main tendue, et je suis frappée par le bleu de ses yeux que la photographie rend brun. Je pense aussi qu'il est très différent de son image, et je préfère ainsi, avec son visage plein d'intelligence et d'énergie qui s'éclaire lorsqu'il parle. En cet instant, je comprends la séduction de ce conducteur d'hommes et son pouvoir sur les foules. Et dès les premiers mots, je comprends que le Führer ne s'embarrassera pas des formules diplomatiques, mais parlera avec liberté.
Quel homme d'État aujourd'hui pourrait viser une conquête territoriale par le moyen d'une guerre? Faut-il faire tuer 2 millions d'hommes pour conquérir une province de 2 millions d'habitants? Ce serait d'ailleurs pour nous sacrifier 2 millions d'Allemands purs, d'Allemands en pleine force, pour gagner une population mixte qui ne serait pas entièrement allemande. Il n'y a pas un Allemand qui désire la guerre.
4 ans seulement après ce message de paix, le 17 juin 40, les armées du Troisième Reich ont marché sur Vienne et Varsovie. Elles ont réussi en un mois ce qui avait été impossible à réaliser en 4 ans de guerre, en 14-18. Enfoncer toutes les lignes de défense françaises et alliées et envahir tout le nord de la France, jusqu'à la Loire. Dans le chaos le plus total et sans l'aval des principaux généraux de l'armée, le maréchal Pétain, nommé président du Conseil la veille, informe ses compatriotes qu'il rend les armes.
Je fais à la France le don de ma personne pour atténuer son malheur. En ces heures douloureuses, je pense aux malheureux réfugiés qui, dans un dénuement extrême, sillonnent nos routes. Je leur exprime ma compassion et ma sollicitude. C'est le cœur serré que je vous dise aujourd'hui qu'il faut cesser le combat. Je me suis adressé cette nuit à l'adversaire pour lui demander s'il est prêt à rechercher avec moi, entre soldats, après la lutte et dans l'honneur, les moyens de mettre un terme aux hostilités.
Pétain choisit l'armistice contre l'avis de nombre de ses ministres. La France devient l'unique pays allié à négocier la paix avec les nazis, c'est-à-dire à enterrer l'âge de guerre et se soumettre au nouvel ordre imposé par l'Allemagne nazie. Mais que veut vraiment Hitler? Quel sort réserve-t-il à la France? Dans la forêt de Compiègne, il a d'abord organisé une mise en scène humiliante. Ses soldats ont exhumé le wagon où avait été signé l'armistice de 14-18 et l'ont installé à l'emplacement même où 20 ans plus tôt, l'Allemagne avait acté sa défaite. C'est ici que l'état-major français est invité à signer la soumission de la France. Voilà, affront levé. Et maintenant, marcher sur Paris, anéantir Versailles. Dans l'état-major nazi, on attend une mise en scène à la hauteur du désir de vengeance de l'Allemagne sur la France. Mais aussi dans la démesure qui fait le succès des spectacles nazis. Alors Hitler hésite, il est à un tournant. Dans le village belge de Brully-de-Perche, où il a installé son quartier général pour suivre la fin de la campagne de France, il fait venir de Berlin son architecte favori, Albert Speer, et le sculpteur Arno Breker. Il aurait d'abord voulu partir avec eux deux, incognito, flâner devant les splendeurs architecturales de Paris, renouer un temps avec la vie d'artiste qu'il a connue dans sa jeunesse, à Vienne. Mais bon, il avait aussi sa garde rapprochée. Outre son aide-de-camp, Bruckner, son second, Schaub, et son photographe, Hoffmann, qui ne le quitte pas, Hitler emmène également Bormann, serviteur zélé du Reich, Brandt, le chirurgien à l'origine des programmes d'euthanasie sur les personnes handicapées, Keitel, qui a négocié l'armistice avec les Français et qui signera un jour le décret Nuit et brouillard. Chacun revêt l'uniforme militaire, même le pauvre sculpteur, et l'itinéraire est tracé à la seconde près. Cela dit, le temps d'une escapade à Paris, Hitler, peintre raté devenu chef de guerre sanguinaire, joue une dernière fois au romantique. Ce sera une visite culturelle, déclare-t-il. La seule et unique visite de Paris de la vie d'Adolf Hitler.
Et si c'était une nuit comme on n'en connut pas depuis 100 000 nuits? Une nuit de fer, une nuit de sang, une nuit... Un chien hurle. Regardez bien, gens de d'enfer, regardez-le. Sous son manteau de bronze vert, le lion tremble. Les hommes avaient perdu le goût de vivre et se foutaient de tout. Leur mère, leur frangin, leur nana, pour eux c'était que du cinéma. Le ciel redevenait sauvage, le béton bouffait le paysage d'alors. Des loups, les loups étaient loin de Paris, en Croatie, en Germanie. Les loups étaient loin de Paris, j'aimais ton rire, charmant Elvire. Les loups étaient loin de Paris, mais ça fait ses 50 lieues dans une nuit à queue leu leu. Dès que ça flaire, une ripaille de mort sur un champ de bataille. Dès que la peur hante les rues, les loups s'en viennent la nuit venue. Alors, les loups, oh, oh, les loups ont regardé vers Paris, de Croatie, de Germanie. Les loups ont regardé vers Paris, oh, tu peux rire, charmante Elvire, les loups regardent vers Paris. Et v'là qu'il fit un rude hiver, sans congestion en fait d'hiver, volets clos, on claquait des dents, même dans les beaux arrondissements. Et personne n'osait plus le soir affronter la neige des boulevards. Alors, de loups, oh, 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 de loups sont entrés dans Paris, l'un par ici, l'autre par Ivry. De loups sont entrés dans Paris, oh, tu peux rire, charmante Elvire. De loups sont entrés dans Paris.
Vous écoutez Affaires Sensibles sur France Inter. Aujourd'hui, la visite d'Hitler à Paris.
Affaires Sensibles, Fabrice Drouel.
Juin 1940, 5h30 du matin, aéroport du Bourget. Le jour n'est pas encore levé dans le ciel parisien quand l'avion Condor d'Adolf Hitler se pose sur le tarmac. Une cohorte de Mercedes noires attend le groupe qui entreprend de rejoindre Paris par le nord. Le convoi traverse la Courneuve, Aubervilliers, avant de passer la porte de la Villette et de remonter la rue Lafayette en direction de l'Opéra Garnier. Alors il faut imaginer le silence de mort qui règne dans les rues d'Hitler et sa suite investissent dimanche matin à l'aube, alors que les deux tiers des Parisiens et des banlieusards ont plié bagages, que les commerces sont fermés, qu'il n'y a plus de vie festive et que les quelques âmes déjà réveillées se terrent chez elles. Paris est triste. Selon Albert Speer lui-même, l'un des rares témoins directs de la scène ayant survécu à la guerre, Hitler se sent affecté par l'ambiance. C'est la première et la dernière fois qu'il y met les pieds. Et Paris n'est pas la ville qu'il avait imaginée quand, jeune peintre, il la fantasmait. Speer est assis juste derrière lui, dans la voiture de tête. Un privilège rare qu'il partage avec le sculpteur Brecker. Ce dernier dans ses petits souliers. Il ne sait pas très bien, à vrai dire, ce qu'il fait là, au milieu du boy club le plus craint d'Europe. Si ce n'est que son style néoclassique plaît au Führer. Brecker connaît bien Paris pour y avoir vécu longtemps, dans les années 20. Artiste parmi tant d'autres dans le quartier bohème de Pigalle, il a côtoyé Cocteau, Picasso ou Dorin. Quel souvenir lui remonte devant ces paysages parisiens qui défilent, cette ville en suspens qui attend de savoir à quelle sauce elle va être mangée.
Paris se prépare à la paix. Les sacs de sable sont enlevés des monuments. Les prisonniers de guerre dégagent l'obélisque égyptien. Et la tombe de Napoléon retrouve la couleur du jour.
Nur nicht zu schnell, man könnte dabei in Schweiß geraten.
Ce film tirait des actualités nazies et montré dans le cinéma allemand dès le 3 juillet 40. Le commentateur, on l'entend, se gausse de voir les ouvriers français travailler pour les Allemands. Sous l'œil de la caméra, Paris enlève ses oripeaux de ville en guerre pour redevenir un décor de carte postale accueillant ses nouveaux maîtres. Au détour d'un plan, voilà qu'Hitler entre en scène, à la tête d'une clique d'une vingtaine d'hommes, tous vêtus d'imposants manteaux de cuir, montant énergiquement les marches de l'église de la Madeleine. Les images sont signées du chef opérateur Walter Franz, qui suit à la trace la délégation menée par Hitler. Et ce n'est pas n'importe qui. Protégé d'Albert Speer, il a fait la photo des films de Leni Riefenstahl et façonné avec elle le style nazi, inventant des cadres nouveaux et multipliant des prouesses techniques. Mais les images de Franz à Paris mettent en scène la fausse vérité, selon laquelle c'est moins le gigantisme et l'énergie brutale d'Hitler qui s'expriment que sa part d'humanité, entre guillemets bien sûr. Oui, le dictateur veut apparaître apaisé, laisser entendre qu'on peut en rester là, qu'une paix est possible avec lui. Ces images servent ainsi à envoyer un message rassurant aux alliés. Il s'agit de montrer un Führer marchant dans et non sur une ville, qui n'a subi aucune destruction et qui l'accueille les bras ouverts. Ceux d'abord des policiers français qui sont disposés sur le parcours des Mercedes noires. L'opérateur prend grand soin de les filmer. C'est la seule sécurité prévue pour encadrer la visite. Ces bras ouverts, ce sont aussi ceux du gardien de l'Opéra Garnier, qui a été réveillé de force pour faire visiter le monument à Hitler et ses camarades. La scène n'a pas été filmée, car il faisait trop sombre. Mais c'est Albert Speer qui nous le raconte dans ses mémoires.
Hitler nous guidait. Un ouvreur aux cheveux blancs accompagnait notre petit groupe à travers l'édifice désert. Hitler avait réellement étudié à fond les plans de l'Opéra de Paris. Dans la loge d'avant-scène, il remarqua qu'un salon avait disparu. L'ouvreur confirma. « Vous voyez comme je connais bien l'Opéra de Paris ?» dit Hitler, satisfait. Fasciné par l'opéra, il s'exalta sur sa beauté inégalée, les yeux brillants, perdu dans une extase qui ne laissa pas de m'inquiéter.
Cet échange avec le gardien symbolise bien ce que sera la lente et progressive soumission de Paris à l'ordre allemand. Hitler le théorisait déjà dans son Mein Kampf. C'est seulement par tranches que le vainqueur intelligent imposera ses exigences au vaincu. Plus il cède volontiers au chantage, moins l'être humain se sent prêt à résister au chantage devant une exigence nouvelle, écrivait-il. Patience donc. Quand il traverse la ville, une semaine après l'entrée de ses troupes, Paris est déjà pavoisé de croix gammées. Les plus beaux bâtiments administratifs ont été réquisitionnés par les services de la commandante Tour. Le mot d'ordre, cela dit, est « correction ». Les soldats allemands sont polis, cèdent leur place aux vieilles dames dans le métro, etc. « C'est un viol tranquille », écrira plus tard l'écrivain et homme politique Emmanuel d'Astier de la Vigerie. Plus tard, la ville deviendra le lupanar des officiers de la Wehrmacht en permission pour qu'ils profitent sans vergogne des plaisirs de la nuit parisienne. Mais reprenons le fil de cette visite d'Hitler. Il remonte les Champs-Élysées, passe devant l'Arc de Triomphe et la tombe du soldat inconnu, et évoque alors, avec son colonel Spiedel, la possibilité d'organiser un défilé militaire tout à sa gloire. L'histoire retiendra que c'est la peur des bombardements de l'aviation britannique qui l'en empêchera. Pour Speer, jamais à plus d'un mètre de son maître, Hitler se serait surtout montré réticent à l'idée de pavaner. « Pourquoi célébrer une victoire? Nous ne sommes pas encore au bout, » dit-il. Le seul défilé qu'il s'autorise pour signifier son triomphe sur la France sera donc cette rapide escapade en voiture enregistrée par la caméra de Frenz.
La Madeleine. Le Führer crée la surprise. Il arrive à Paris tôt le matin et sa visite inclut ses monuments. La place de la Concorde. L'Arc de Triomphe. Le Trocadéro. Point de vue sur la Tour Eiffel, le professeur Speer est à gauche du Führer.
Au Trocadéro, face à la Tour Eiffel, Frenz réalise une série de photos qui feront le tour du monde. La plus célèbre montre Hitler, l'air décontracté, sa silhouette masquant quelque peu celle de la Tour Eiffel. Deux monuments scrutés également par Albert Speer, l'air fier et Brecker, toujours un peu perdus. On les imagine alors en train de disserter sur l'architecture et la magnificence de Paris, réfléchissant sur le thème « Comment la dépasser ?». Cette visite ravivra chez Hitler l'ambition de lancer une politique de grands travaux à Berlin pour créer une capitale du monde, Germania, parsemée de monuments immenses, s'élevant dans le ciel et trouée d'artères impressionnantes. Comme Paris en fait, Paris et ses Champs-Élysées, mais en beaucoup plus grand. Hitler se voit déjà comme le fondateur d'un empire millénaire. Le prochain arrêt qu'il effectue l'enchante encore plus. Les images n'ont pas été montrées dans le film d'actualité, peut-être pour respecter son caractère plus intime. Pourtant, mise en scène, il y a toujours. Hitler troque ainsi sa veste de cuir pour une gabardine blanche. Il porte l'habit qu'il revêt pour les très grandes occasions, car il va se recueillir devant la tombe d'un empereur. Il pénètre ainsi dans l'hôtel des Invalides où repose Napoléon. Une photo enregistre son image, prostrée devant l'immense tombeau de l'empereur français. Il adopte alors exactement la même posture que celle de Napoléon s'inclinant devant la tombe de Frédéric II dans un tableau célébrant la conquête de la Prusse. Les tyrans sanguinaires aiment les symboles et se reconnaissent entre eux. Pris par l'émotion, Hitler aurait alors déclaré « C'est le plus beau jour de ma vie ». L'homme est effectivement firmament de sa puissance. Il a mis l'Ouest de l'Europe à ses pieds en un mois. Lucide aussi, car il ne connaîtra plus jamais des heures aussi heureuses. La tranquille visite de Paris n'est qu'un mirage. Car devant lui s'avance la plus grande épreuve, celle-là même qui a jadis causé la perte de Napoléon. Hitler n'a plus qu'une idée en tête, en effet, la guerre à l'Est, l'inévitable affrontement à venir contre l'URSS. Après les Invalides, le petit convoi se remet en route, direction le Panthéon, qui impressionne Hitler. Puis les Mercedes noires passent en coup de vent devant Notre-Dame et l'hôtel de ville, sans que ça n'émeuve le Führer. Il est ensuite reconnu par quelques Parisiens au milieu des quartiers des Halles, avant de se rendre au Sacré-Cœur pour prendre des dernières photos du groupe surplombant la ville conquise. Il est à peine 9h du matin et Hitler quitte déjà Paris. Le Condor survole une dernière fois la ville lumière avant de disparaître dans les nuages. Albert Speer se souvient alors des mots de son maître.
C'était le rêve de ma vie de pouvoir visiter Paris. Je ne saurais dire combien je suis heureux que ce rêve se soit réalisé aujourd'hui. »
Pendant un instant, j'éprouvais pour lui de la pitié. 3 heures passées à Paris, la première et la dernière fois qu'il y venait, le rendirent heureux, alors qu'il était à l'apogée de ses succès. Le soir, il me reçut encore une fois. Il était seul à table. Sans embâge, comme si c'était la chose la plus naturelle, il me déclara.
« N'est-ce pas que Paris était beau ? Mais Berlin doit devenir beaucoup plus beau. Je me suis souvent demandé dans le passé s'il ne fallait pas détruire Paris. Mais lorsque nous aurons terminé Berlin, Paris ne sera plus que son ombre.
Alors pourquoi la détruire ?»
4 ans plus tard, en août 1944, Berlin est sous les bombes alliées. Et Germania ne verra jamais le jour et restera à l'état de maquette. Le guide suprême du Troisième Reich, lui, reclus dans sa tanière du Loup, son quartier général secret au fin fond de la Pologne. De là, il suit l'effondrement de son empire, qui n'aura pas vécu 5 ans. En France, les troupes alliées avancent à grands pas depuis le débarquement en Normandie le 6 juin et s'apprêtent à libérer Paris. Hitler nomme un nouveau gouverneur militaire pour gérer la défense de sa plus belle prise. Un homme à la tête dure, qui a déjà à son actif la destruction de Rotterdam et de Sébastopol. Les ordres donnés au général von Kollstitz sont clairs. Il faut se battre jusqu'au bout. Les alliés ne doivent pas s'emparer de Paris facilement. Le 23 août, alors que les divisions du général Leclerc sont aux portes de Paris et que les combats font déjà rage dans les rues de la ville, von Kollstitz aurait reçu un ordre radiodiffusé. Paris ne doit pas tomber aux mains de l'ennemi ou l'ennemi doit trouver un champ de ruines. Puis un second message, signé de la main d'Hitler. Paris brûle-t-il ? En vérité, on n'a jamais retrouvé la trace de ces deux messages. Leur prétendue existence a surtout servi la mémoire du général gouverneur allemand, se présentant lui-même comme le sauveur de Paris. Oui, celui qui n'a pas écouté les ordres. Mais ceux-ci ont-ils seulement été donnés ? Hitler, qui avait tant admiré Paris, a-t-il voulu entraîner la ville dans sa chute ? On ne le saura probablement jamais.
France Inter. Affaires sensibles. Fabrice Drouel.
Avec notre invitée Cécile Desprairies. Bonjour.
Bonjour Fabrice.
Vous êtes écrivaine spécialiste de Paris sous l'occupation. Vous avez notamment publié un voyage à travers la France occupée, 1945, aux presses universitaires de France, et un autre ouvrage tout récent qui est un roman. Mais on en dira quelques mots à la fin de cette interview. Alors, on a conféré à cette visite d'Hitler à Paris une dimension quasi mythique. On connaît tous l'image du Führer devant la Tour Eiffel. Et pourtant, quand on déplie véritablement l'histoire, ce qu'on a essayé de faire, on s'aperçoit qu'il ne s'est pas passé grand-chose ce jour-là, finalement.
C'est surtout au point symbolique que c'est important. L'attitude de Hitler en touriste, il est avec ses gants gris-souris, il n'est pas appuyé sur la rambarde, il est adossé. Le Trocadéro, le pont d'Iéna a été doublé pour la fameuse exposition de 1937. Et il y a le symbole du jour qui se lève sur la Tour Eiffel. C'est le symbole. C'est surtout ça qu'il faut retenir.
Est-ce que c'est le symbole de sa plus grosse prise ? Parce que finalement, la France est sa plus grosse prise.
C'est la plus grosse prise, mais c'est surtout la prise la plus magique. Varsovie sera détruite, Paris restera la vitrine où tout combattant du front de l'Est rêvera d'aller et d'obtenir une permission. Ça restera de bout en bout, parce que une vitrine.
Alors, on voit le comportement de Hitler, qui n'est pas un comportement guerrier ce jour-là. Il dit d'ailleurs que c'est un voyage culturel. Est-ce qu'il faut rapprocher ça de l'idée selon laquelle, en vrai ou fausse, les autorités nazies avaient décidé de violer tranquillement la France, c'est-à-dire sans trop de violence, histoire de diffuser le message que les nazis étaient des gens civilisés, qu'ils allaient sauver l'Europe. Est-ce que cette visite de Paris et ce comportement illustrent ça ?
Ce sont les prémices. C'est vrai que les maisons closes sont réquisitionnées depuis déjà 9 jours. Je rappelle que les maisons closes étaient autorisées. Il faudra la loi Marthe Richard de 1946 pour les interdire. Et il y a ce mot de la plus célèbre maison close de Paris, le 122, le 122 rue de Provence. La tenancière Fabienne Jamais dit « On nous a réquisitionnés le jour même de l'arrivée de l'occupant, comme si nous étions aussi connus que les Invalides ou le tombeau de Napoléon. » Donc ça, c'est vrai, sans doute, ça va être la ville plaisir, la ville lumière, la ville du plaisir des Allemands.
Donc, à ne pas détruire et à rester avec sa population relativement correcte, quoi. Jusqu'au jour où la résistance arrive, et là, évidemment, ça s'écroule.
Oui, mais la résistance n'est pas arrivée tout de suite, c'est loin de là.
C'est bien, donc pendant cette période-là, voilà. il y avait de la part d'Hitler cette volonté d'occuper la France de façon convenable.
Oui, c'est-à-dire que cette photo, ce film, ouvre la voie à la collaboration. Si tout se passe bien, ce sont les uniques occupants, la suite devrait bien se passer. Il va y avoir une sorte une année, avant la rupture du pacte germano-soviétique en juin 41, où, effectivement, tout a l'air de bien se passer. Mais après, les attentats vont commencer.
Peut-on croire vraiment, y croyez-vous, à la vérité d'une visite impromptue, en coup de vent, simplement pour satisfaire l'appétit touristique et culturel d'Hitler ?
Non, c'est un symbole. C'est un symbole. N'oublions pas que, pour les nazis, l'information et la propagande sont une seule et même chose. Donc, n'oublions pas non plus qu'il n'y avait pas de télévision et que les actualités cinématographiques étaient proposées en première partie du cinéma. Donc, c'est un symbole très, très puissant et qui ouvre pour tout le reste.
Alors, à quoi ressemble Paris ce jour-là, pendant cette époque-là? On n'imagine pas d'ailleurs, c'est une vérité, une ville endormie, où il n'y a pas de bruit, il n'y a personne dans les rues, c'est ça ou pas?
Alors, je me suis beaucoup interrogée, et en fait, je me demande s'il n'y avait quand même pas, je ne sais pas, les carillons des églises, l'Angélus, c'est un dimanche matin, c'est 23 juin, on est à la veille du solstice, mais il y a quand même des messes, même si la ville est engourdie, elle n'est pas totalement silencieuse. À mon sens, elle ne l'est pas totalement. Mais l'impression qu'on en a est celle-là.
France Inter. Affaires sensibles.
Cécile Desprairies, nous parlions de l'atmosphère de Paris au mois de juin 40. On l'a un peu oublié aujourd'hui. Si Paris intramuros, ça a été assez préservé par les destructions, les banlieues, elles, ont été beaucoup plus touchées par les bombardements allemands avant la prise de Paris et après la libération, mais aussi beaucoup par les alliés durant l'occupation.
Oui, mais bien sûr, mais il faut se représenter un autre Paris, un Paris beaucoup plus ouvrier, et les banlieues, je pense notamment à la banlieue ouest avec Boulogne-Billancourt, les usines Renault qui fabriquent des tanks pour l'Allemagne nazie, ou Porte de la Chapelle. Il faut se représenter un Paris beaucoup plus, d'abord noir, plein de fumée, sale, mais ouvrier. Et bien évidemment, c'est pas le cœur de Paris qui a été détruit, mais les usines.
Alors c'est un pan un peu oublié de l'histoire du régime nazi, mais qu'est-ce qui caractérisait le goût esthétique nazi?
Ah, le colossal avec un grand K.
Ouais.
C'est moche. Très sincèrement, ça n'a aucune grâce, sans goût ni grâce. Et les plans de Germania, le nouveau Berlin, c'est assez monstrueux. Non, on peut dire que l'esthétique nazie est très particulière.
Alors, elle porte la marque d'un homme, Albert Speer, avec son air de pas y toucher, celui-là.
Oui.
Il fait quand même partie des criminels
bien
nazis.
Bien sûr, mais bien sûr.
Qui était ce Albert Speer?
Ah, redoutable. Redoutable parce que, d'abord, il est très séduisant, il a un magnifique sourire, et non seulement il est l'architecte en chef du Führer, d'Hitler, mais aussi, c'est un chef de guerre, l'organisation Tote. On dit, vous savez, le travail forcé, qu'il a prolongé l'occupation de 2 à 3 ans, parce qu'il a mis en place. C'est un excellent logisticien.
Alors comment se passe l'installation, entre guillemets, des nazis, des Allemands à Paris, dans quel quartier, qu'est-ce qui est réquisitionné, où est-ce qu'ils se retrouvent, c'est quoi la présence allemande? Faites-nous une espèce de cartographie de la présence allemande à Paris.
Alors,
comment elle est organisée? On peut prendre notre temps.
Écoutez, cette présence a été préparée depuis 3 ans. Les plans du cadastre étaient en vente libre à la librairie Brown, rue Saint-Lazare à Paris. Et ces plans ont été acquis tout à fait légalement. Et plus l'officier est important, plus il a, on réquisitionne le matin du 14 juin 1940 et en une demi-journée, l'intégralité de l'armée s'installe à Paris parce qu'ils savent tous où ils doivent aller et plus on est important, plus on a de portes de sortie. Ça m'a fascinée. D'abord, il faut un immeuble plutôt haussmannien. Et c'est comme si, dès le début, on anticipait les combats, la sortie de secours. Et bien sûr, le sommet de la hiérarchie est à l'ouest et dans le centre. Et les soldats sont en périphérie, enfin au nord, à l'est de la ville. Puisque dans une ville, l'ouest est plus chic que l'est, puisqu'on suit le sens du vent et de la fumée. Mais cette installation, avec ce bond de réquisition en une demi-journée d'un demi-million de personnes, est assez fascinant, je dois dire.
Alors comment se passe concrètement cette prise de Paris? Les soldats allemands entrent dans un Paris un peu vide, et en tout cas sans défense, on l'a dit. Mais comment ça se passe et quel est le regard des Parisiens au début, quand les Allemands s'installent? Alors, on a dit, au début, c'est relativement civilisé. Hein,
oui.
Et qu'est-ce qui se passe? Racontez-nous.
Écoutez, je crois que tout le monde est un peu interdit, donc...
Il y a de quoi.
Il y a de quoi. Et le bon de réquisition, soit le logement est entier, soit il y a une pièce. Et puis, il y a des logements tels les casernes, qui sont des prises de guerre automatiques. Tout se fait au début. D'une manière très fluide, et les restaurants, on l'a vu, restent ouverts. L'occupant paie en francs français. Très très vite, l'après-midi du 14 juin, il y a des Parisiennes sur les genoux des Allemands aux terrasses des cafés.
Et qu'est-ce qui se passe pour les gens qui sont expropriés? Ou vire de leur immeuble, carrément.
Non, ils n'ont plus le droit d'exister. Ils n'ont plus le droit d'être là. Et souvent aussi, Paris a été désert. Et n'oublions pas que ces histoires de réquisition, c'est aussi la revanche du suivant par rapport au précédent. Les immeubles Rothschild, par exemple, une banque. C'est une vengeance, c'est une revanche. Et tout se met en place assez vite. Il n'y a pas de combat, il n'y a pas de résistance, il n'y aura pas de résistance avant longtemps. Contrairement au mythe très répandu. Je donnerai simplement un chiffre. Là, dans une France de 40 millions d'habitants, il y aura en 1944, et dans les trois dernières semaines, 0,1% et même moins, c'est-à-dire 300 000 résistants répertoriés, engagés, encartés. 300 000 résistants, 40 millions de Français.
Ouais.
Pas beaucoup.
C'est pas beaucoup. Et la chasse aux Juifs, à Paris, elle commence quand?
Paris n'est pas l'Allemagne, Paris n'est pas
la Pologne.
La Pologne, mais il y a un certain antisémitisme qui n'est pas communément répandu. Simplement très très vite, hein, on le sait, c'est le Pétain dès octobre 40. Si on est juif, on n'a plus le droit d'exercer un métier dans la fonction publique, on n'a plus le droit d'être médecin, prof. Et il y a ce fameux numerus clausus, un quota de personnes. C'est-à-dire que au début, quand on est une personne juive, on essaye de s'habituer. Mais très très vite, en octobre, dès octobre, c'est plus possible de vivre. Donc,
il y a eu 4 mois de répit, quoi.
Voilà, et encore. Par exemple, le directeur de Paris Soir, Lazareff, comprend que c'est très mal parti et part en zone libre et après pour les États-Unis.
Alors, on en arrive à la question à laquelle on n'a toujours pas de réponse. Pensez-vous qu'Hitler a vraiment voulu détruire Paris, qu'il a donné l'ordre et que von Kolstitz a résisté?
Ça fait partie du mythe, mais j'en suis pas sûr. Mais tout le monde aime bien penser ça.
Ça rend les choses moins manichéennes, du
oui,
côté français.
Ça rend moins Dieu. J'ai lu les mémoires de l'ambassadeur de Suède, et alors il dit qu'il a fait gagner du temps, parce qu'avec les Allemands, il faut toujours des cachets, des tampons, que tout soit signé, contre-signé, qu'il a fait gagner du temps. Mais je ne sais pas. Ça fait un peu partie du mythe.
Ouais.
Comme celui de la résistance.
Comment ça, celui de la résistance?
C'est-à-dire que la résistance, elle a été très tardive.
Ah oui, d'accord, voilà. Ok. Bon.
Alors, elle a existé, mais était, bon, oui, très restreinte.
Il nous reste une minute pour dire un mot de votre dernier livre, La Propagandiste. Alors, c'est un roman, hein, bon, ça plonge dans le réel et dans l'histoire, évidemment. Et la quatrième de couverture dit « La propagandiste jette un regard sans concession sur la France de la collaboration et son empreinte sur notre mémoire collective ». Qu'est-ce qu'il raconte, ce livre ?
Eh bien, c'est un roman qui se situe du côté des collabos. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il y a dans la tête d'un collabo ou d'une collabo ? Comment ils aménagent, comment ils s'arrangent et comment ils profitent. Parce qu'on parle toujours des résistants, mais si on... Vous savez, ça c'est un mot de Machiavel. Il faut savoir ce qu'il y a dans la tête de l'autre, ce qu'il y a dans la tête de l'ennemi. Eh bien, comment fonctionne un collabo ? Eh bien, ou une collabo, justement. Et comment ça se passe ? Et voilà, bien sûr, tout a été réglé très vite en France. Très vite.
Voilà, comment ça se passe ? Qu'est-ce qu'il y a dans la tête d'un collabo ou d'une collabo ? La réponse est dans La Propagandiste, écrite par vous, Cécile Desprairies. C'est au Seuil. Merci infiniment.
Merci à vous.
Au revoir.
Au revoir.
C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, la visite d'Hitler à Paris, l'émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Olaré Ouajou-Otinois.